l'histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, actualité des publications, actualité des débats d'histoire et de mémoire. Pour commencer cette émission du vendredi, nous aurons un entretien avec les deux auteurs de « À quoi servent les politiques de mémoire ?» qui est sorti hier aux presses de Sciences Po, Sarah Gainsburger et Sandrine Lefranc. Et puis Annette Becker et Loba Jürgensen viendront nous présenter le dossier de la revue « Mémoires en jeu » sur le dark tourisme. Si vous ne savez pas ce qu'est le dark tourisme, vous allez l'apprendre assez rapidement. Ensuite, Catherine Decopé, dans sa chronique mensuelle « La fabrique de l'autre » détaillera pour nous le cheminement dans nos sociétés du mot « gay ». Et puis pour finir, la séquence « C'était à la une » en partenariat avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France qui nous présentera un texte issu du journal révolutionnaire « Le Père Duchesne » sur la première abolition de l'esclavage en 1794.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Bonjour à vous, Sarah Gainsburger.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS en sciences politiques à l'Institut des sciences sociales du politique, ainsi que Sandrine Lefranc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi chercheuse au CNRS dans ce même laboratoire et vous participez, comme Annette Becker que nous entendrons un peu plus tard dans cette émission, au LABEX Les passés dans le présent. Vous êtes toutes les deux auteurs de À quoi servent les politiques de mémoire aux presses de Sciences Po qui vient de sortir. C'était hier. Et si j'ai commencé par Brassens, c'est qu'en lisant ce livre, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose, c'est-à-dire, effectivement, vous faites le parallélisme entre les politiques de mémoire aujourd'hui et des politiques mémorielles ou historiques qui, sous la Troisième République, enjoignaient de suivre parfois le clairon qui sonne, comme le dit Brassens. Mais là, ce sont d'autres politiques qui sont à l'œuvre, Sandrine Lefranc.
Oui, on a eu envie, au terme de quelques agacements communs, partagés dans des couloirs autour de cafés, de déplacer le débat. On en avait un peu assez de ces débats qui se préoccupent seulement des bonnes victimes. Et on a voulu montrer qu'il y avait d'autres choses à dire sur les politiques de mémoire et sur leurs effets. Sur
Alors, c'est un petit livre, un petit essai très nerveux que vous avez écrit, donc toutes les deux, Sarah Gainsburger et Sandrine Lefranc. Et en fait, vous travaillez sur ces questions depuis longtemps. Sandrine Lefranc, vous êtes spécialiste des politiques de sortie, pourrait-on dire, de pays dictatoriaux ou de pays qui ont connu des drames politiques. Comment sort-on de ces moments dramatiques? Et puis, Sarah Gainsburger, vous avez travaillé beaucoup sur ces questions mémorielles en faisant en particulier des enquêtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, que de remettre en cause ces politiques de mémoire dont vous dites, au bout du compte, qu'elles sont relativement récentes dans le paysage européen et le paysage français? Elles ne remontent, dites-vous, généralement pas beaucoup plus haut que les années 90.
Bon, évidemment, en préalable, surtout que Annette Becker est assise juste à côté de moi, il s'agit pas du tout de dire que l'État s'est pas préoccupé de l'histoire ou de la mémoire avant. Mais ces types de politiques qui donnent un rôle social très important en termes de gouvernement des conduites, à travers la mémoire, s'est développé de manière générale, internationale et instituée à partir de cette date-là. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est que Comme vous l'avez dit, Sandrine et moi, on travaille sur ces sujets à partir de terrains complètement différents et on s'est aperçu qu'il y avait une logique commune dans ces espaces nationaux et politiques différents et surtout que ces types de politiques espéraient induire des comportements vertueux citoyens à partir de récits du passé.
Cette injonction qu'on a, effectivement, ce qu'on a appelé à une époque et qu'on a contesté ensuite, le devoir de mémoire, en l'occurrence, Sarah Gainsbourg-Jay.
Ouais, c'est un des termes que ça peut revêtir, mais c'est pas du tout le seul terme. Il s'agit pas de... Ce qu'on essayait de faire, c'est pas de critiquer le devoir de mémoire ou de dire que c'est pas la bonne mémoire qui est... C'est pas du tout ça.
C'est de travailler revenir... sur son efficience.
Voilà, de revenir vraiment au cœur du mécanisme, de ce qu'on présuppose en termes de sociologie, d'effets sur la société à partir de ces politiques. Alors, vas-y, Sandrine.
Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'au fond, on se leurre en pensant que n'importe quelle injonction, tu ne tueras pas, tu te souviendras, tu honoreras, tu seras tolérant, que ça fonctionne mécaniquement et que chaque individu, l'entendant une fois ou deux ou trois, va plus tard, quand on lui tendra une arme par exemple, se souvenir de ce qu'on lui a inculqué et ne pas tuer. Mmh. On a juste voulu montrer que ce pari était un pari assez vain.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on pourrait croire comme ça, à vous entendre immédiatement, qu'il y a là la critique, pourrait-on dire, de cette question du devoir de mémoire, c'est plutôt autre chose qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que vous êtes toutes les deux spécialistes de sciences sociales du politique. Et en fait, vous voulez remettre, Sandrine Lefranc, des sciences sociales dans cette question-là.
C'est ça, on a voulu montrer que c'était compliqué ce qui se passait quand un enfant va visiter une exposition, quand il reçoit une leçon d'histoire. On a voulu montrer que c'était compliqué un procès qui parlait d'histoire et que, au fond, comme on le sait tous dans nos vies quotidiennes, on n'est pas juste à écouter une leçon. On vit des choses dans des relations et les bonnes leçons d'histoire ne peuvent pas être efficaces quand elles sont reçues d'enseignants à élèves.
Oui, et donc vous insistez, Sarah Gainsbourg-Jay, vous avez fait des enquêtes sur cette question-là, ainsi que d'autres, sur le fait que l'élève, par exemple, à qui on confie d'une certaine façon cette transformation future du monde, c'est-à-dire ce monde serait meilleur avec lui s'il a reçu certaines de ses leçons, cet élève, il n'est pas élevé dans une sorte de laboratoire qui serait l'école, et il a évidemment des relations à côté, des relations amicales, des relations fraternelles, des relations familiales qui ont quelque chose à voir avec sa vision du passé.
Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de montrer que les politiques de mémoire agissent toujours en situation. Et l'élève, il est en situation d'élève, c'est-à-dire qu'il est dans une classe, certes, mais en étant dans une classe, il est dans une relation complexe avec son enseignant, il est le camarade de ses amis, il est l'enfant de ses parents, et donc c'est la manière dont il va recevoir cette histoire-là va aussi dépendre de toutes ses relations sociales. Ce qui ne veut pas dire que ça va marcher ou pas marcher, mais c'est juste pour remettre en perspective l'ensemble de ces dispositifs avec le contexte situationnel et social dans lequel ils ont lieu. Et je préciserai que c'est au-delà du livre, mais ça a un écho, je pense, assez singulier en ce temps où le ministère de l'Éducation nationale et un certain nombre d'acteurs du champ de l'éducation ne parlent sans arrêt que de neurosciences, de sciences du cerveau, oubliant quand même que l'élève n'est pas un cerveau. Pour la politique de la mémoire comme pour le reste, il est d'abord un être social. Bon, ça nous emmène peut-être loin, mais ça participe de ce débat. Ce livre entend aussi participer de ce débat, comme vous le disiez, en remettant les sciences sociales au cœur et en étudiant l'élève, mais aussi des dispositifs comme les cérémonies commémoratives, les procès pour mémoire que Sandrine a particulièrement étudié, les expositions d'histoire, etc.
On est dans une sorte de régime de croyance et vous avez travaillé effectivement sur la sortie des situations de crise dans des pays qui ont connu par exemple des dictatures, Sandrine Lefranc, sur les commissions dites « vérité » et réconciliation, et vous travaillez sur cette question-là en vous disant, tout compte fait, si ça marchait si bien, on le saurait au bout du compte. Or, souvent, ça peut marcher, mais ça peut aussi mettre un peu la poussière sous le tapis, en attendant que ça ressorte d'une manière beaucoup plus violente, Sandrine Lefranc.
Alors, effectivement, on veut montrer que c'est compliqué, on veut montrer aussi que ce sont souvent des affaires politiques, en l'occurrence, les commissions de vérité et de réconciliation, on peut les recevoir comme des moments où, religieusement et avec amour et bienveillance, on écoute des victimes et on se en compte, à bien regarder ce qui s'y passe, à bien regarder le rapport entre la dite victime, le public et l'institution, que c'est infiniment plus compliqué, que la victime, par exemple, est tenue de jouer la bonne victime.
Mmh. Sarah Gainsbourg-Jay.
J'ajouterais que pour certains cas qu'on montre dans le livre, notamment pour les personnes convaincues d'idéologie et de croyances contraires à ce que les politiques de mémoire veulent transmettre, c'est-à-dire plutôt une croyance dans le vivre ensemble, dans une citoyenneté tolérante et ouverte, ça peut avoir des effets pervers. Il y a certains collègues, notamment américains, qui ont étudié très précisément des dispositifs comme des commissions vérité-réconciliation dans le sud des États-Unis, donc c'est d'actualité par rapport à toute la question des mémoriaux de la guerre civile, qui montrent que ce type de commission, au lieu de faire venir les membres du Ku Klux Klan ou les gens convaincus de racisme vers plus de tolérance et d'ouverture, va les renforcer dans leur adhésion à ces valeurs. Je précise évidemment que tout ce qu'on dit là ne nous fait pas plaisir. Hein. Nous aussi, on a des enfants, on espère vraiment qu'ils vont...
On leur dit la même chose.
Voilà, on propage nous-mêmes cette croyance dans nos vies quotidiennes, mais c'est aussi une vigilance à avoir par rapport aux possibles effets pervers de ces dispositifs.
Oui, vous évoquez par exemple les études que Shana Tiger, c'est ça, a faites en Afrique du Sud. Quelles sont-elles justement sur cette question de la sortie du régime de l'apartheid ?
En Afrique du Sud, on sait que toute la présentation de l'histoire de l'apartheid a plutôt eu tendance à cacher dans le placard les points compliqués et à créer une forme de consensus qui met de côté les conflits réels et des conflits sociaux qui se prolongent aujourd'hui. Ça vaut aussi pour la situation française.
Oui. Typiquement, l'étude que vous évoquez, c'est une étude qui se passe dans une classe par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et elle montre que les enseignants, même les enseignants noirs, qui essayent d'expliquer, d'enseigner le passé de l'apartheid à leurs élèves, vont avoir tendance à mettre en avant des figures, évidemment, de la lutte pour l'égalité du côté noir, mais aussi du côté blanc, parce que avant de transmettre le passé, ils ont à gérer des classes. Ils ont à gérer des groupes de personnes qui se trouvent être, dans la plupart des cas, des élèves noirs et blancs. Et que donc, pour créer un espace commun à ces enfants-là, ils sont obligés d'avoir recours à ces deux figures qui, du coup, dépolitisent le racisme.
Voilà, alors ça, c'est une vraie question qui est centrale dans votre livre qui s'appelle « À quoi servent les politiques de mémoire ?». C'est que vous dites, tout compte fait, ces politiques de mémoire, elles jouent sur l'émotion, souvent, et elles oublient le politique et le social. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, d'une certaine façon, Sandrine Lefranc, si on met en place une politique de mémoire, c'est souvent... C'est votre diagnostic, après on peut le contester, parce que le pouvoir politique est faible et parce qu'au bout du compte, il veut se renforcer en se donnant justement cette distance, cette émotion très particulière de réconciliation entre des populations qui ont été déchirées par le politique auparavant, Sandrine Lefranc.
Paul Venn le dirait autrement, mais je vais me concentrer sur les situations que je connais. De fait, c'est du bon pragmatisme politique, mais ça n'est en aucun cas une compréhension de l'histoire et certainement pas non plus une manière de construire une compréhension partagée de l'histoire, parce que ça supposerait d'accepter de se battre. Tous les pouvoirs qui pratiquent ce genre de choses cherchent des figures exemplaires, des héros, des victimes, suscitent de l'émotion et ne veulent pas parler de ce qui fâche.
Oui, et cela, par exemple, cela donne ce qu'on a connu effectivement lorsque des enfants font des selfies à Auschwitz, lorsque dans des classes, en l'occurrence, eh bien, on conteste le fait d'être ou de ne pas être Charlie. Tout cela donne... Cela, c'est-à-dire, d'une certaine façon, ça élimine la possibilité soit de la violence, soit de la vengeance, soit d'une autre réaction qu'une réaction purement de compassion, Sarah Gainsbourg-Bianger.
Ah oui, ça nous emmène quand même sur le terrain du politique, sur lequel on a. C'est pas un livre du tout partisan, hein, je tiens à le préciser, mais évidemment, ça pose, on l'évoque et ça pose en filigrane ces questions-là, qui sont. Que finalement, la politique de mémoire et l'adhésion à cette politique devient presque un signe de citoyenneté. C'est comme un cercle vicieux, puisque au lieu de que la politique soit, comme elle est conçue au départ, un moyen d'accéder à la citoyenneté, le fait de la refuser ou de pas y adhérer complètement, c'est vu comme un signe de bonne citoyenneté. Et bon, dans le cas de Charlie, c'est un problème beaucoup plus complexe et on cite un extrait du discours de la ministre de l'Éducation à l'époque
Najat Vallaud-Belkacem.
Voilà, qui s'offusque du fait que des élèves posent des questions, soient critiques, soient opposés. Évidemment que
ces questions préférerait... sont insupportables, surtout quand on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs, disait-elle.
C'est ça. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut transmettre des valeurs autrement que par des questions, y compris quand elles fâchent. Qu'est-ce que c'est cette notion de transmettre des valeurs ? Est-ce qu'on peut transmettre des valeurs ?
Alors vous voyez bien que c'est assez compliqué. J'imagine nos auditeurs et en particulier nos auditrices et auditeurs qui sont professeurs, par exemple, à qui depuis des années on dit il faut enseigner, il faut aller voir les mémoriaux de la Shoah, il faut aller voir les mémoriaux sur toutes les catastrophes et les massacres du XXe siècle, par exemple, à qui vous dites tout compte fait votre travail est peut-être inutile. En fait, il faut pas se leurrer. Il y a une critique qui vient du conservatisme, de la droite, de ses politiques de mémoire, en disant une critique très individualiste, en disant c'est l'État qui nous impose une vision de la politique. Vous posez la question plutôt, Sandrine Lefranc, de son efficacité et du compte fait de pourrait-on mieux faire ?
Alors, il y a déjà une première chose. Je pense que les enseignants ne sont pas dupes. Nos collègues, les enseignants avec lesquels on a travaillé et qu'on connaît, ont une pleine conscience de l'efficacité relative de leur travail. Deuxième aspect, quand on essaye de d'éclairer ça avec la lumière des sciences sociales, ce que l'on veut montrer, c'est que pour qu'une leçon soit retenue, il faut que l'enseignant qui la propage soit considéré comme quelqu'un d'important. Donc, en gros, faites ces politiques-là, mais commencez déjà par payer des salaires décents. Voilà. Je peux le dire de manière élégante. Et puis par ailleurs, ce qu'on veut montrer, c'est que ça ne fonctionne que quand ce que dit l'enseignant est rappelé par la mère, le père, est rappelé dans la conversation avec le boulanger, est rappelé dans la classe. Voilà ce que l'on dit. Tout simplement, ce sont des phénomènes sociaux.
Oui, Sarah Gainsbourg, effectivement, l'école ne peut pas être le seul endroit, l'école ou les médias, parce que tout de même les médias participent beaucoup à ces questions-là, et ne peuvent pas être les seuls endroits où on va défendre ce type de politique de mémoire.
Non, c'est l'objet de la troisième partie, c'est qu'on montre que l'efficacité de ces politiques n'est pas forcément là où on croit, elles sont plutôt dans le fait qu'elles impliquent indirectement un grand nombre d'acteurs sociaux divers, et que c'est ça qui leur donne une force sociale, en fait. Ce qui est très différent de toutes les critiques existantes sur les politiques de mémoire. Puisque, alors que, par exemple, la critique de droite, a l'habitude de décrier tel ou tel, je mets des guillemets, groupe, communauté qui demande la mémoire, ce qu'on montre, c'est que plus de gens différents sont intéressés par ces problématiques et s'y engagent, plus elles vont avoir une efficacité. Ce qui est complètement contraire de la plupart des conclusions sur la question. Mais pour l'enseignant et pour la visite des mémoriaux, évidemment, il ne s'agit pas du tout de dire qu'il ne faut pas visiter les mémoriaux. Moi, je les visite, je participe à la construction. Enfin,
vous êtes aussi des entrepreneuses de mémoire absolument. Dont vous parlez.
D'ailleurs, dans la dernière partie, j'explique qu'en tant que sociologue, j'écris ce livre, mais en tant qu'autre chose à un autre moment, je fais moi-même une exposition d'histoire, etc. C'est précisément des situations sociales. Mais surtout, il y a toute une réflexion sur la didactique de l'histoire. Il ne s'agit pas seulement de dire les enseignants doivent transmettre la mémoire ou transmettre le passé. Il y a plein de façons de le faire et il y a toute une réflexion en cours sur cette didactique.
Alors, votre collègue Annette Becker qui est à côté de vous a pris plein de notes en vous écoutant. Annette Becker, vous êtes là pour parler du dossier donc, de Mémoires en jeu avec Luba Jorgensen sur le dark tourisme. Mais j'imagine que travaillant dans ce même laboratoire, les passés dans le présent que nos deux précédentes intervenantes, vous avez des petites choses à dire à propos de tout ça.
Moi, je suis absolument d'accord et ça fait peut-être 25 ans que nous disons, les historiens des guerres qui ont été au cœur du phénomène décrié à l'instant du devoir de mémoire,
des politiques de mémoire
imposé. On a toujours dit qu'il n'y a pas de devoir de mémoire, qu'il y a un devoir d'histoire et qu'il n'y a pas de travail de mémoire sans travail d'histoire. Et donc ça rejoint, je crois, tout à fait ce que vous dites. Ce que je rajouterais par rapport à notre dark tourism, c'est que c'est un mot, une expression en anglais. Et je pense que c'est très important de les dire parce que ce sont les anglo-saxons qui ont lancé cette discipline de compréhension de la façon dont la mémoire se voit. Et là, c'est un passage non seulement à ce qu'on dit, mais à ce qu'on peut regarder. Regarder les mémoriaux et regarder surtout les lieux où se sont passées les catastrophes.
Sarah Gainsbourg-Gé.
Je rebondirai pour dire que précisément dans le livre, on mobilise, je pense, plus que la plupart des travaux francophones qui sont publiés, énormément de littérature anglo-saxonne.
Il faut le noter, effectivement, ça c'est très important.
Et que donc, c'est un petit livre, mais il représente beaucoup de travail qui synthétise une grande littérature qui est peu présentée et peu abordée en France. Et je pense même pour les enseignants, précisément, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant parce que, comme le dit Annette, il est d'ailleurs question du dark tourism dans le livre.
Ouais. Vous appelez ça le tourisme macabre. En l'occurrence.
C'est la traduction.
Ouais.
On va revenir à la traduction.
Voilà.
Le 10 juin 44, j'étais à Oradour en congé chez mes parents. Vers 2h de l'après-midi, les Allemands sont arrivés avec des voitures blindées. et ils sont redescendus pour nous faire aller sur la place du champ de foire. Là, j'étais au rassemblement avec ma mère et deux sœurs.
Il y avait des militaires qui s'étaient détachés et qui nous ont pris à la maison. En nous disant, tous, place du marché. Et en effet, il a fallu se rendre sur ce champ de foire.
Ils ont séparé du groupe les femmes et les enfants. Environ à l'âge de 14 ans, les enfants allaient avec les mères. Au-dessus, on considérait que c'était des hommes. Moi, j'avais 19 ans, si j'allais dans le groupe des hommes.
Le moment le plus pénible, c'est quand il a fallu se séparer. On nous a séparés, les hommes des femmes. Mon fils ne pouvait pas me lâcher de mon cou. Nous avons été conduits à l'église et les hommes ont été mis dans les granges.
Voilà un extrait du film de Michael Prasant, Das Reich, une division SS en France, qui évoque évidemment le massacre d'Oradour sur Glane à partir des témoignages de Robert Hébras et de Marguerite Troufanche. Un massacre qui trouve sa place dans ce numéro de Mémoires en jeu. Bonjour Loubey Orenson, on a déjà entendu Annette Becker, qui est une revue qui s'intéresse justement à ces questions de mémoire sur le dark tourisme. Alors, vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas très bien ce que c'est que le dark tourisme en France. C'est un terme anglo-saxon. Comment on pourrait le traduire,
voilà,
Annette Becker?
Les anglo-saxons ont cherché, ça fait une trentaine d'années maintenant que le chant a commencé, comme un chant universitaire. Ils voulaient décrire les endroits où l'on se déplace pour voir, pour essayer de comprendre.
Des lieux de massacre.
Les catastrophes du passé ou du présent. Ça a commencé pour les anglo-saxons énormément autour de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et autour de l'extermination des Juifs, de la Shoah, mais pas seulement. En particulier, ils ont eu toute une réflexion, beaucoup plus tôt que nous, sur les lieux de l'esclavage. Et donc, on peut remonter beaucoup plus loin, évidemment, jusqu'au 15e, 16e siècle, par exemple. Et en fait, c'est venu en France difficilement à cause du mot « tourisme ». Parce que quand on a le mot tourisme, on a l'idée du tourisme de masse et plutôt des plages. Mmh. Et associer ce qui est le plus cruel dans l'histoire de l'humanité avec les plaisirs de masse, c'était insupportable. Ce qu'il y avait au milieu, c'était massification d'ailleurs.
Et pourtant, c'est ce qu'on disait à l'instant même avec Sandrine Lefranc et Sarah Gainsbourger, les débats portent par exemple sur a-t-on le droit de téléphoner ou prendre un selfie à Auschwitz, donc lieu de tourisme de masse. Il y a dans ce dossier une photographie effectivement d'un de ces hommes qui sont des sortes de porte-drapeaux dans la ville de Cracovie pour pouvoir emmener les gens à Auschwitz. Effectivement, ils vont à Auschwitz, ils vont visiter Cracovie,
visiter les mines de sel, visiter Auschwitz.
Voilà.
Dans Cracovie, c'est partout.
Voilà. Donc, il y a bien une dimension touristique à cette visite d'Auschwitz.
Tout à fait. Il y a une dimension touristique. Et d'ailleurs, c'est une espèce de cercle vicieux, parce que plus un endroit a été une catastrophe importante, et plus on retrouve les politiques de mémoire, plus les États ou les lieux où ça se passe le laissent visiter. Parce qu'une des spécialités de Loubey est bien sûr le goulag. En l'occurrence, ça serait des lieux de dark tourism absolument passionnants. Mais
l'État ne les laisse pas.
Les Russes d'aujourd'hui ne les laissent pas et ne laissent pas les historiens même travailler sur le sujet.
Oui, Loubey Orenson, ce qui est très intéressant dans ce dossier, où il faut le dire, il y a des chercheurs anglais, américains qui travaillent avec des chercheurs français et des chercheuses françaises sur cette question-là, c'est par exemple de noter que sur un même lieu, par exemple les lieux de l'esclavage du côté du Ghana, eh bien évidemment, des touristes peuvent venir de différents endroits, et selon que l'on est ghanéen ou selon que l'on est nord-américain, un afro-américain par exemple, on n'a pas la même attente vis-à-vis de ces lieux. Vous dites, et l'auteur de cet article précise bien, que pour les Ghanéens, c'est un lieu de commerce, c'est un lieu qui peut permettre de gagner de l'argent, c'est un lieu touristique, donc c'est un lieu où on peut faire de l'argent. Pour les Afro-Américains, c'est un lieu semi-sacré, voire totalement sacré. Évidemment, il y a des conflits d'interprétation sur le même lieu en fonction justement de cette dimension touristique, Lou Byer-Hanson.
Alors, des conflits ou des complémentarités,
oui,
ou des croisements, on peut voir ça de façon différente. Il est vrai que les motivations qui sont à la base de ces déplacements, et là vous évoquez le fait que dans ces lieux touristiques, bon, il y a ceux qui se déplacent vers les lieux touristiques, donc ça engage déjà la question économique, c'est-à-dire il s'agit de passer par des agences de voyage, de payer un voyage, d'investir de l'argent dans ce déplacement, et donc effectivement d'entrer dans une logique de tourisme ou de loisirs. Et puis il y a ceux qui sont sur place pour qui ces lieux sont des lieux familiers et des significations liées à la vie quotidienne ont évidemment parfois recouvert la mémoire que les autres viennent chercher de l'extérieur.
Bien sûr, et tout dépend, Annette Becker, de l'intention des touristes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce que c'est dans un circuit dans lequel on fera à la fois la ville ancienne de Cracovie et puis Auschwitz? Est-ce que c'est véritablement pour venir à Auschwitz et pour pouvoir s'y recueillir? Est-ce que c'est parce que ses parents ou ses grands-parents y ont trouvé la mort? Tout cela, ce sont des dimensions qu'il faut prendre en compte.
Bien sûr, je crois qu'il faut voir qu'il y a deux aspects dans le dark tourism. Comme nous l'étudions, il y a d'une part les touristes et leurs motivations très, très diverses, et d'autre part les concepteurs des lieux, et ces concepteurs pouvant être évidemment les bourreaux, si on pense à la construction des chambres à gaz de Birkenau. Et c'est très souvent des deux côtés, un espèce de palimpseste. C'est-à-dire que pour le cas du Ghana, par exemple, les lieux d'esclavage sont devenus des prisons pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et donc, on a deux façons de voir le passé, et les touristes viennent pour des raisons différentes.
Exemple de palimpseste dans ce numéro de Mémoires en jeu, Lou Byer-Hanson, et c'est un article tout à fait passionnant de Stéphane Michonneau, spécialiste de la mémoire du franquisme et de la guerre civile en Espagne. Eh bien, c'est l'exemple de Belchite. Alors, Belchite, c'est une ville en Aragon qui a été prise et reprise pendant la guerre civile à plusieurs reprises par les forces franquistes et par les forces républicaines, qui a été détruite ou quasiment à cette occasion-là, un peu comme Oradour d'une certaine façon, mais simplement, il n'y a pas un seul responsable de cette destruction. Donc, selon le moment de commémoration, eh bien, du temps de Franco, c'est devenu une sorte de ville sacrée parce que il condamnait la barbarie rouge séparatiste des républicains. Et puis, à partir du moment des années 80 que Franco a disparu et que la transition démocratique a été mise en place, eh bien, on a donné un autre sens et on a voulu en faire, par exemple, une ville de la paix, Lou Byer-Hanson.
Alors, effectivement, bon, dans ce dossier, on a voulu montrer aussi l'ampleur du phénomène du tourisme, du dark tourisme. Alors, je rappelle quand même que sur la couverture, comme c'est la revue est en
français, en anglais.
Oui, bon, elle est en partie bilingue. On a aussi, on s'est beaucoup posé la question quel terme on met en français. Et donc, on a mis tourisme mémoriel, ce qui comprend en fait, donc le terme dark n'est pas présent. En revanche, peut-être que tourisme mémoriel, qui est effectivement arrivé après le dark tourisme dans le lexique de la
recherche. Mais le sous-titre est important.
Le sous-titre est extrêmement important.
La face sombre de la Terre. Mais il y a toujours cette idée de lumière et d'ombre, et de leçon.
Qui est
absolument partout.
Mais je veux dire que le tourisme mémoriel comprend, effectivement, le terme comprend une pluralité de pratiques, peut-être plus vaste, c'est-à-dire y compris le tourisme patrimonial, le retour non seulement, c'est l'appropriation du passé traumatique sous toutes ses formes. Et donc, ce que vous évoquez est effectivement extrêmement important, parce qu'on constate, et c'est une sorte de constante, que les lieux, une fois investis par la violence génocidaires ou la violence d'État ont tendance à être réinvestis. C'est-à-dire, voilà, on observe la même chose en Europe de l'Est. Par exemple, une prison du NKVD va devenir ensuite une prison de la Gestapo. Puis de nouveau, une prison du NKVD. Alors, comment commémorer, effectivement?
Et c'est très difficile.
C'est ce que dit... C'est là que les politiques de mémoire entrent en jeu.
Ouais, exactement. Ouais. On est tout à fait dans le sujet qui était évoqué en première partie de cette émission. Parce que, par exemple, Belchite dit, Stéphane Michonneau, aujourd'hui, ça serait une sorte de cité innocente qui aurait été victime de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas été actrice, pas plus que les acteurs dont on parlait tout à l'heure. Puis il y a une question qui est posée, qui est assez formidable, que j'ai trouvée dans ce dossier. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait des inconsolables? C'est-à-dire de ceux qui, d'une certaine façon, on voudrait donc que ces politiques mémorielles aident, pansent les plaies. D'ailleurs, c'est ce que disent dans leur livre Sarah Gainsbourger et Sandrine Lefranc. Et puis, au bout du compte, il y a toujours les gens qui sont inconsolables. Et ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait, Sandrine?
On les envoie en thérapie. Ouais. Je ne ris pas, c'est-à-dire que très concrètement, dans les dispositifs de sortie de conflit qui sont financés par l'ONU et mis en œuvre ici et là, il y a des thérapeutes qui accompagnent les victimes et qui leur disent « ne criez pas, pleurez, ne criez pas, pleurez
». Sarah Gainsbourger.
Justement, actuellement, alors que des travaux comme ceux de Jean Améry sur le ressentiment sont très anciens, il y a toute une redécouverte de ce type de travaux. Jean Améry étant un ancien déporté qui a écrit un livre qui s'appelait Le ressentiment, enfin sur le ressentiment, dans les années 60.
Avant de se suicider.
Voilà, ça, on a toute le portrait. Où justement il revendiquait le fait de non seulement d'être inconsolable, mais en plus d'être en colère, d'être pas d'accord.
Qu'est-ce qu'on fait de la violence que l'on porte
C'est vraiment, et ça actuellement ça participe de même mouvement, je pense, que traduit le numéro et traduit notre ouvrage, c'est qu'il y a une redécouverte de ce type de travaux, et la figure de l'inconsolable va à mon avis revenir au cœur des travaux sur la mémoire.
Je crois que le rejeu est quelque chose de très très important, et je voudrais rendre hommage au co-directeur du numéro, mon collègue de Liverpool, Charles Fortier, avec qui on mène depuis 2 ans cette enquête, parce que lui, en particulier, est spécialiste de l'esclavage. Et ce qu'il montre très bien dans le numéro, c'est la façon dont la situation, et vous parliez tout à l'heure en particulier du problème noir aux États-Unis tel qu'il ressurgit aujourd'hui, eh bien, il fait le même travail pour les Antilles. Et ce qu'il fait de façon très intéressante, c'est qu'il le fait à partir de la littérature, et Luba aussi est spécialiste de littérature. Et ça, c'est une chose qui me paraît très importante, la façon dont la littérature et la façon dont les artistes sont absolument investis dans ces lieux, parlent de ces lieux où ils sont présents. Un artiste comme Yar, par exemple, chilien vivant aux États-Unis, qui aujourd'hui est en train d'exposer une forêt qui cache des cellules de la CIA. Enfin, des trous qui sont les cellules cachées de la CIA contre Al-Qaïda. Voilà un artiste qui est complètement investi dans le dark tourism, mais sur qu'est-ce qu'on peut montrer aux gens pour qu'ils réfléchissent.
Oui, mais évidemment, la question de l'artiste est très éloignée de ce que l'on fait faire parfois aux artistes. Dans ce numéro de Mémoires en jeu, il y a Luba Jorgensen, un article qui évoque un film produit sur les viols en RDC, en République démocratique du Congo, qui s'appelait Weapon of Wars, et qui était un film qui a été projeté à la Banque mondiale, et celui ou celle qui raconte cet article, dans cet article, dit que on a projeté ce film pour avoir une volonté de rédemption, pour gagner les cœurs, mais que le scénario tout entier était fondé sur la demande de pardon. C'est-à-dire qu'on avait déjà écrit le film pour qu'au bout du compte, on arrive à cette question du pardon. Donc qu'au bout du compte, ça n'est pas le travail de l'artiste qui est libre de choisir ce qu'il veut dans ce passé, de le présenter au présent pour pouvoir faire un débat. C'est déjà quelque chose qui veut lisser le conflit, lisser les problèmes pour pouvoir présenter quelque chose de positif, et donc la réconciliation au bout du compte.
Oui, donc effectivement, la réconciliation peut être un enjeu dans ce
tourisme mémoriel.
Ce tourisme mémoriel, disons que là, comme le disait Annette Becker, il y a les motivations de ceux qui viennent et de ceux qui aussi de ce qui est orchestre, cette rencontre, en fait, parce que qui dit tourisme mémoriel dit rencontre avec un lieu, mais aussi, effectivement, avec les acteurs des politiques locales de la mémoire. Donc, effectivement, les deux champs d'étude sont tout à fait connexes. Donc, voilà, on peut, effectivement, être d'une certaine façon, en tant que touriste, instrumentalisé dans une logique politique qui nous échappe.
Comme dans ces musées, que ce soit d'ailleurs l'Holocauste à Washington ou dans d'autres endroits en Afrique du Sud, où on prend son ticket et où on est noir ou blanc et on a un itinéraire qui vous conduit selon que l'on est noir ou blanc. Mais on sait très bien qu'à la sortie de ce musée, on ne sera pas noir ou blanc. Enfin, on restera le même d'une certaine façon. On imagine que la performance va vous permettre de vous mettre à la place d'eux, d'une certaine façon, ce qui est un peu...
La question de la réconciliation, d'ailleurs, se rejoue dans le dernier film de Little, où on voit bien comment le cinéaste a intériorisé ces questions de réconciliation, alors qu'il dit avoir laissé ses sujets totalement libres de mener le dialogue avec lui. En fait, on sent bien qu'il est aussi pris dans ces logiques de réconciliation.
Sandrine Lefranc.
Si j'essaye de rassembler les fils, au fond, tout ça dit une chose, c'est qu'il faudrait cesser de regarder ça avec les yeux de la morale, et plutôt que de s'offusquer d'un enfant qui gambade en riant à Auschwitz, ou de deux femmes qui parlent de leurs chaussures dans le même lieu, il faudrait accepter qu'on continue à vivre dans ces lieux et plutôt essayer de comprendre ce que cela peut donner ensuite. Parce que sinon, ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'on n'aura que ce rapport de moraliste à la mémoire.
Oui, Sarah Gainsbourg.
Par rapport à la question que vous posiez sur la réconciliation et puis les inconsolables, c'est que la question quand même qui reste posée, c'est celle de la justice. C'est-à-dire que même pour un cas quand même comme la question de la Shoah en France, où il y a eu toute une politique de reconnaissance, etc., quand on étudie précisément aujourd'hui encore les demandes de réparation qui sont faites à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, on se rend compte à quel point, à travers ces demandes de compensation matérielle, se jouent des enjeux des inconsolables, des gens qui ne font pas encore sens de ce qui est arrivé, de l'attitude que la société a pu avoir vis-à-vis d'eux, alors qu'on est dans un cas où la société a quand même pris certaines mesures plus avancées que dans d'autres cas. Et il reste un abîme d'injustice. C'est ça le fond aussi de la question.
Oui, justice, injustice.
Si on veut comprendre cela très bien, je conseille la lecture de Liquidation, de Kertész. Kertész, ancien déporté d'Auschwitz, qui imagine dans ce roman l'impossible compréhension du phénomène, et il envoie ses personnages à Auschwitz. Et à Auschwitz, ils ne comprennent rien, ils ne voient rien, et il dit avec un humour noir, quelqu'un m'a dit qu'il fallait aller à Birkenau parce que c'est plus intéressant, Birkenau. Et à nous...
Il faut toujours compter sur Kertész pour pouvoir justement nous remettre les choses, les pendules à l'heure.
Je crois que Kertész, comme Chamoiseau pour l'esclavage, le font de façon remarquable, et que à nous de comprendre ce qu'ils veulent nous dire.
Je voulais dire qu'on a prévu justement un dossier de Mémoires en jeu sur l'impunité pour explorer cette question de la mémoire des inconsolables et voir ce que devient la mémoire qui effectivement la question de la justice est extrêmement importante puisqu'elle oriente la mémoire. Je veux dire, les mémoires lorsque l'espace juridique a été investi pour condamner des crimes, la mémoire ne prend pas les mêmes voies que dans les sociétés où cela n'a pas été fait. Oui. Il s'agit vraiment d'explorer aussi ce phénomène.
Est-ce que vous pensez, tout compte fait, Sandrine Lefranc et toutes les autres qui sont autour de cette table, que l'opinion est mûre pour ce que vous venez de dire? C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on aurait pu être dans un séminaire du LABEX, les passés dans le présent, c'est-à-dire une discussion entre chercheurs qui, chacun, ont leur objet d'étude sur ces questions, justement, de la résurgence du passé dans le présent. Mais quand on a passé 30 ans à nous dire qu'il fallait donc se souvenir, que ça allait aider, soigner, etc., etc., et que des dizaines de milliers d'acteurs sociaux s'y sont mis, ce que vous venez de dire peut choquer. C'est-à-dire que certains peuvent mal l'entendre d'une certaine façon, soit parce qu'ils n'auraient pas fait le bon boulot, soit parce que ça n'aurait pas bien marché, soit parce qu'ils n'auraient pas été à la hauteur d'une certaine façon, Sandrine Lefranc.
La question « l'opinion est-elle mûre ?» est une question paternaliste, Emmanuel. Moi, je pense que l'opinion n'est pas dupe. Alors, l'opinion, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, je ne parle pas de ceux qui construisent les politiques de mémoire. L'opinion, à mon sens, est mûre. L'opinion sait très bien qu'elle est fréquemment en colère et qu'elle peut s'offrir un droit à la colère ou à l'inconsolable. Je ne doute pas un instant que l'opinion est prête à entrer dans des conflits et en débattre très vivement.
Très brièvement, l'une et l'autre.
Je veux juste dire que, en fait, l'opinion, ça dépend dans quelle situation elle reçoit. Ici, peut-être que les gens qui sont investis dans cette thématique, qui écoutent La Fabrique de l'Histoire, n'ont peut-être pas apprécié forcément ce qu'on a pu dire aujourd'hui.
Pourquoi pas ?
Parce que c'est une situation particulière. Mais quand on est au café ou dans des soirées, ou l'opinion, elle va s'exprimer peut-être différemment, parce qu'au fond, c'est un peu comme le roi Ennu, ce qu'on dit dans le livre, je pense que beaucoup de personnes le pensent.
Allez,
je suis tout à fait d'accord avec elle, et la preuve, c'est que notre prochain numéro est sur la mémoire immédiate, et en particulier celle des attentats, et
Et le prochain numéro, il sort bientôt.
Il sort dans une semaine, c'est ce qui s'appelle mémoire immédiate, mémorialisation immédiate, et on le voit très bien, et Sarah est la première à avoir travaillé sur ces sujets, quand on parle avec les victimes des attentats récent, on a des gens qui comprennent ces phénomènes très fortement.
Merci. Rappelons donc Mémoires en jeu. Donc cette revue, le troisième numéro est porté sur le tourisme mémoriel, la face sombre de la Terre, et que le prochain parlera justement des mémorialisations des attentats, mémorialisation immédiate, et que votre livre, Sandrine Lefranc et Sarah Gainsbourger, aux presses de Sciences Po, s'appelle « À quoi servent les politiques de mémoire ?»
Libellis, conservateur, homme politique, insoumise, arctique, geek, souffrit, paysan, geek, red cause, arctique, pétroleuse, souffrit. La fabrique de l'autre, Catherine de Coppet.
Et vous venez donc chaque mois, Catherine de Coppet, dans votre chronique La Fabrique de l'Autre, donc pour pouvoir nous raconter comment un mot catégorise un groupe de gens, et vous en profitez pour plonger dans un pan d'histoire. Et aujourd'hui, vous avez eu envie, à l'occasion de la sortie du film 120 battements par minute, bonjour Catherine, donc de nous parler du mot « gay ».
Gay Pride, Gay Liberation, traduisons, soyons fiers d'en être, libérons-nous.
Vous entendez une archive sonore de la première Gay Pride aux États-Unis qui s'est tenue en 1970, cette marche des fiertés homosexuelles qui fera des émules dans le monde entier. Quand on évoque l'histoire de l'homosexualité, on pense en effet spontanément à ces années 1970. Or, pour envisager le terme de gay et comprendre son évolution à travers le temps, il faut faire un bond en arrière assez conséquent. Alors, ce ne serait pas possible sans le travail de George Chauncey, historien américain, auteur d'ouvrages de référence sur l'homosexualité masculine à New York au XXe siècle, ouvrage traduit en français il y a à peine une quinzaine d'années. Selon cet historien, le mot « gay » apparaît donc aux États-Unis au début du XXe siècle. Il vient du français « gay », l'adjectif, qui dans sa connotation sexuelle ramène à la prostitution. On parlait des filles de joie ou des filles gays, Brassens ne dirait pas l'inverse. Dans les années 1920 et 30, « gay » en anglais renvoie à une certaine insouciance et à une liberté de mœurs, homosexuelle ou non. Chez les homosexuels eux-mêmes, « gay » est utilisé souvent pour faire référence au caractère flamboyant ou extravagant de certaines tenues portées par ceux qui reprennent les codes de la féminité. L'ambiguïté de l'adjectif est typique de l'époque, des années 20. Chauncey montre que les premières décennies du XXe siècle étaient finalement plus ouvertes qu'on ne le pense et que la vie homosexuelle était plus intégrée dans ces années-là, dans l'espace public urbain, que dans les années 60, très répressive.
Alors Catherine, c'est au tournant des années 40 que cet adjectif, donc gay, va devenir un nom commun.
Le mot vient alors concurrencer d'autres termes qui coexistent jusque dans les années 1930-1940 et qui renvoient à autant de réalités plus ou moins exclusives les unes des autres. Chauncey analyse surtout les mots que les homosexuels eux-mêmes s'approprient ou revendiquent pour s'autodésigner. Et pour les comprendre, il faut se dire qu'avant les années 60, c'est plutôt autour de la différence homme-femme que se construisaient les représentations et non autour de la différence homo-hétéro comme aujourd'hui. Trois catégories désignant les hommes homosexuels coexistaient alors. Les fairies, qu'on peut traduire par fées ou tantes, et qui désignent les hommes qui reprennent les codes féminins, de l'efféminement au travestissement, et le mot queen était à peu près équivalent. Les trade, qui désignent des hommes qui acceptent des relations sexuelles avec des hommes, mais tout en affirmant leur virilité selon les codes de l'époque. C'est la figure du marin ou du soldat, idéal viril, désiré également par les femmes. Et enfin les queers, qu'on peut traduire par bizarre ou exceptionnel. Cette catégorie émerge dans les classes moyennes en réaction au côté très expressif des deux catégories précédentes. Et par le mot queer, on souhaite dire qu'on est différent, mais sans véhémence. Or, progressivement, dans les années 40, le terme gay va se confondre avec queer, même si pour certains, la connotation joyeuse ou insouciante du mot fait encore trop référence à la figure des fairies, des folles.
Et c'est donc au début des années 70, Catherine, que le terme gay va véritablement prendre l'acception qu'on lui connaît aujourd'hui à la faveur des émeutes de Stonewall aux États-Unis.
Alors à l'époque, l'homosexualité fait encore l'objet de discriminations inscrites dans la loi et je n'ai pas le temps ici d'ouvrir cette fenêtre pour les différents lieux du monde entier que ça concerne d'ailleurs encore aujourd'hui. Le 27 juin 1969, des homosexuels résistent à une descente de police anti-homo dans un bar de Manhattan fréquenté majoritairement par des Afro-Américains et des Portoricains. S'en suivront plusieurs jours d'affrontements avec la police qu'on appellera les émeutes de Stonewall du nom de ce bar de Christopher Street. L'événement qui signe la sortie de l'ombre pour de nombreux homosexuels, va constituer la référence mémorielle d'une communauté qui est en train de se constituer. Événement symbolique de la libération homosexuelle, Stonewall est surtout le point de départ d'une nouvelle forme de lutte, plus sociale et tournée vers les droits et l'égalité. Et c'est précisément à cette période que le mot « gay » se généralise, perdant son sens spécifique des débuts. Le terme devient plus inclusif et diminue le caractère subversif traditionnellement attaché à l'homosexualité et sert ainsi la création d'une communauté politique mieux identifiée, ne se limitant pas toujours à la seule homosexualité masculine. C'est pour commémorer Stonewall qu'a lieu l'année suivante aux États-Unis cette première Gay Pride, qu'on appelle alors le Christopher Street Liberation Day, où homosexuels, hommes et femmes manifestent pour leurs droits. Quelques années plus tard, le principe est repris ailleurs dans le monde. En France, les homosexuels commencent à marcher d'abord dans les défilés du 1er mai, à partir de 1971, mais il faudra attendre 1977 pour qu'une première Gay Pride soit organisée. L'arrivée du sida dans la décennie suivante, on le sait, viendra ébranler et remettre en cause cette libération homosexuelle, tout en provoquant l'apparition de nouvelles formes de militantisme et l'installation progressive dans le langage de l'acronyme LGBT. Mmh. Alors l'intérêt de travaux comme ceux de Chauncey, en retraçant notamment l'aventure de ce mot « gay », est de montrer que comme toute histoire, celle de l'homosexualité contemporaine est faite de continuité et de rupture et qu'elle reste pour beaucoup encore à écrire.
Merci Catherine, on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle Fabrique de l'autre.
Merci.
J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain
en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
La grande joie du père Duchesne. Janvier 1794. Si je n'ai pas encore parlé du fameux décret, ces Noirs devenus libres en seront-ils moins industrieux? Deviendront-ils impotents quand ils travailleront pour eux? Croit-on que la liberté humaine soit moins puissante pour leur donner du cœur à l'ouvrage que les fouets et les bâtons sous lesquels on les fait expirer? Non, foutre, le nègre devenu libre et propriétaire deviendra plus industrieux, plus actif. Ce ne sera plus pour un maître barbare qu'il arrosera la terre de ses sueurs et de ses larmes. Ses enfants lui appartiendront. Ils lui feront chérir la vie. En échange du sucre et des autres denrées qu'il aura cultivées, nous troquerons avec lui nos étoffes et les productions de notre sol. Alors, nous ferons avec lui des traités d'alliance et de commerce. Heureux, foutre, si le blanc républicain peut un jour, par sa bonne foi et sa justice, faire oublier à l'homme noir tous les maux que ses pères lui ont fait endurer. Ah, quel beau jour, foutre, que celui où on a vu un brave Africain et un mulâtre prendre séance à la Convention. Un temps viendra, je l'espère, où tous les peuples de la terre, après avoir exterminé leurs tyrans, ne formeront qu'une seule famille de frères. Peut-être un jour verra-t-on des Turcs, des Russes, des Français, des Anglais, des Allemands réunis dans le même Sénat, et composer une grande convention de toutes les nations de l'Europe. C'est un beau rêve qui cependant peut se réaliser. Je ne crois pas cependant, comme le poète Anacharsis, que nous devions faire les Don Quichotte et entreprendre une croisade universelle pour convertir à la liberté ceux qui ne sont pas encore dignes de la connaître. C'est au temps et à la raison de faire un pareil miracle. Commençons à établir chez nous cette liberté. Lorsque les autres nations verront les fruits qu'elle aura produits, lorsque sous des lois sages nous serons tous heureux, alors les hommes qui ont un peu de sang dans les veines chercheront à nous imiter et nous donneront un coup d'épaule à ceux qui voudront sortir de l'esclavage. Un événement aussi heureux, foutre, que celui qui anéantit jusqu'à la dernière trace d'esclavage en France devait être célébré par les sans-culottes. La Commune de Paris, qui la première a levé le drapeau de la liberté, vient de rendre hommage à la raison de ce nouveau triomphe. J'aurais voulu foutre que la France entière eût assisté à la fête républicaine qui a eu lieu, dès Cadix dernier, en réjouissance de l'abolition de l'esclavage des nègres. Jamais, foutre, les voûtes de la ci-devant cathédrale ne retentirent d'un pareil tédéum. Tous les bons sans-culottes, les sociétés populaires, les autorités constituées environnaient l'autel de la raison. Une députation de la Convention vint aussi lui offrir l'encens des représentants du peuple. Tous les regards étaient fixés sur les trois montagnards américains. Alors, foutre, je me suis rappelé l'histoire ou le roman du sans-culotte Jésus, en contemplant auprès de la statue de la liberté ces trois braves lurons qui viennent du bout du monde rendre hommage à la divinité des hommes libres. J'ai cru voir les trois mages qui visitaient dans son berceau le prétendu fils du patron des cocus. Mais foutre, ce n'est pas une étoile qui leur a servi de chandelle, mais c'est le flambeau de la vérité qui les a conduits. Ce n'est pas un dieu mangeant de la bouillie qu'ils viennent adorer, mais c'est la divinité éternelle, c'est la raison.
Voilà, vous avez écouté, donc, c'était à la une, la séquence qui termine toutes les émissions du vendredi désormais, séquence préparée avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale, et vous pouvez évidemment lire la totalité de cet article du Père Duchesne en 1794 sur l'abolition de l'esclavage en allant sur ce site pendant votre week-end. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille et Francesca Fossati, Pierre Faucillon nous a accompagnés à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'histoire de l'Europe dans la fabrique de l'histoire.